La première fois que nous avons rencontré Laurence dans son bureau à Lergues, nous avions apporté une galette des rois comme une manière de formuler nos vœux pour ce projet à construire ensemble. Et par maladresse, peut-être lorsque l'on pense à la manière dont les chefs d'établissement utilisent cette tradition pour annoncer de manière festive les directives pour l'année à venir. Un an plus tôt, nous étions allés voir une conférence qu'avait donnée Laurence lors du séminaire « Something You Should Know » à Paris. Elle avait commencé son intervention en disant « Je n'ai pas été éduquée à prendre la parole ». Puis, elle avait parlé avec détermination de l'accès à la technologie et de ses perspectives féministes, de ses questionnements sur l'institution au sens large et de ses recherches autour de la psychothérapie institutionnelle. Nous avions eu la sensation d'avoir affaire à une pratique singulière qui nous a touchés par sa volonté constante d'expérimenter la possibilité concrète d'une autre manière de faire, de s'organiser. Nous voulions avant tout que ce livre soit le portrait d'une méthode plutôt que d'une personne, un objet qui engage la pensée et amène à réfléchir sur les manières de travailler. Dans ce livre, il s'agit souvent du faire ensemble et du faire partie. S'organiser collectivement, entre individus, mais aussi en lien avec des institutions, nécessite forcément de se poser des questions plus larges, organisationnelles, éthiques, sociales, politiques.
Bienvenue dans cet épisode de Le bruit qui court ne suffit pas, où nous sommes en déplacement à Sète. L'émission que vous écoutez s'est construite à partir du livre « Ce que Laurence Rassel nous fait faire » que nous avons co-écrit, Agathe Boulanger, qui est là avec moi, Jules Lagrange et moi, Signe Frederiksen. Le livre a été publié en 2020 chez Paraguay Press, réalisé à partir d'entretiens menés avec Laurence Rassel, directrice de l'ERG, l'école de recherche graphique de Bruxelles. Ce livre présente sa pratique inspirée du féminisme, du logiciel libre, de la science-fiction et de la psychothérapie institutionnelle. Plus qu'une biographie, nous avons voulu que ce livre soit le portrait d'une méthode et qu'il invite ses lecteurs et lectrices à penser leur propre parcours dans le monde de l'art.
Dans cette émission, nous revenons sur des passages de ce livre et les mettons en résonance avec les pratiques d'autres personnes, actrices du monde de l'art, qui, elles aussi, imaginent d'autres manières de faire en fabriquant des gestes qui rendent aux relations une dimension plus humaine. Nous traversons avec nos invités trois grandes questions. D'où vient-on, qui invite à une forme d'introspection sur les origines d'un parcours fait d'un bricolage de circonstances. Mais aussi, quels sont les outils que chacun et chacune façonne au service d'une pratique qui se crée sur le terrain? Et enfin, qu'est-ce qu'on fout là, comme une manière de réinterroger chaque jour les raisons d'un engagement pour qu'il devienne non pas intact, mais en constante évolution?
Le bruit qui court ne suffit pas.
Comment on met entre les mains des gens quelque chose pour leur permettre de passer la porte. C'est magnifique parce que ça, c'est le sens même de notre action et le sens même de nos métiers, c'est de faire passer des portes.
Cette fois-ci, nous sommes à Sète, plus précisément au CRAC Occitanie, dans le bureau de Marie Cossette, qui est la directrice du Centre d'art. Marie, tu es diplômée de l'école de Louvre. Tu as été commissaire indépendante de 2003 à 2007. Dans cette période, tu as aussi cofondé Béton Salon à Paris. Puis tu as dirigé le Centre d'art contemporain, la Synagogue de Delme, de 2007 à 2018. Depuis 2018, tu diriges le CRAC Occitanie. C'est la première fois que nous nous rencontrons, mais nous avons déjà passé un peu de temps avec l'espace d'exposition, dans l'exposition actuelle sur Fernand Deligny, Légende du radeau, et l'exposition en parallèle de Florian Fouché, qui s'appelle Manifeste assisté.
Et on avait pensé à plusieurs extraits avant notre rencontre. On ne savait pas tellement lequel choisir, peut-être parce qu'on se connaît peu encore. Mais lorsqu'on s'est appelé la semaine dernière, tu nous avais dit que tu avais eu à la fois du plaisir à lire le livre, mais que ça avait pu être troublant aussi pour toi parce qu'il y avait eu quelque chose d'une projection très forte en disant que c'était rare d'avoir accès à la parole d'une directrice dans le champ de l'art et que ça n'existait pas dans les films et dans les livres. Et donc on s'est finalement décidé sur cet extrait parce que tu nous as parlé d'une phrase à laquelle on faisait référence dans l'introduction du livre, qui était une phrase de Laurence, qui t'avait marqué, qui était « Je n'ai pas été éduquée à prendre la parole ». Et on s'est dit que ça pouvait être un bon début pour commencer la conversation et on voulait savoir à quel endroit ça faisait sens pour toi.
Ben, effectivement, moi j'étais très troublée par cette phrase qui arrive dès la première page. Et donc là, il y a tout de suite une connexion très forte qui s'est mise en place avec cette voix. Parce que c'est quelque chose à laquelle je réfléchis souvent et puis qui nous permet de parler du dispositif lui-même auquel vous m'avez invité, qui pour moi n'a aucun caractère d'évidence, qui peut être même très intimidant, voilà, avec cette espèce de gros micro et tous ces objets techniques voilà, qui sont sur mon bureau. C'est presque un peu effrayant, je dois dire. J'en ai pas du tout l'habitude et je ne recherche pas spécialement ce genre de situation, donc c'est toujours bien de pouvoir parler de la situation de prise de parole dans laquelle on est. Et effectivement, pour le mettre en perspective biographique ou sociologique, j'ai déjà eu l'occasion d'ailleurs de parler de ça avec d'autres personnes, mais le système éducatif que moi j'ai connu depuis que je suis à l'école, donc c'est quand même une grosse partie de la vie de beaucoup de gens, c'est que moi à l'école, ce qu'on m'a appris, ce qu'on apprend à la plupart des enfants à faire, c'est à se taire et à écouter. Et ça évidemment, c'est surinvesti quand on est une petite fille ou une femme. On est dans une société où en tant que femme, on est moins appelée à prendre la parole ou en tout cas, on nous donne peut-être moins les moyens, mais en tout cas, c'est différent de prendre la parole quand on est une femme ou un homme. Donc effectivement, ça fait une espèce de double couche comme ça de la question de la légitimité, à s'inscrire dans une parole qui plus est publique. Je vois que les choses changent et évoluent puisque moi j'ai une petite fille qui va à l'école maintenant et que à la maternelle, elle me racontait que tous les matins, il y avait le quad neuf. Et donc, on invite tout le monde à prendre la parole. Donc voilà, la pédagogie évolue vraisemblablement. Et quand elle m'a raconté ça au début, ça m'a rendue très heureuse, voilà, de savoir qu'elle était invitée, comme tout le monde, à prendre la parole. Mais en tout cas, voilà, moi, je n'ai pas été éduquée comme ça. Donc, c'est vrai que ça construit quelque chose qu'il faut déjouer, déconstruire en permanence. Et qu'aujourd'hui, je me retrouve dans une situation de direction d'une institution publique. Je suis amenée à prendre la parole régulièrement en public. Et c'est une chose qui continue, même si j'ai appris, qui continue à ne pas être naturelle et simple et évidente du tout. Donc, c'était l'occasion de poser cette chose-là. Et la phrase de Laurence Rassel, bien sûr, elle fait écho à plein d'endroits.
C'est intéressant que tu parles de ça parce que, enfin, moi, ça me met directement en prise avec l'exposition de Deligny, mm-hmm. où la question de la parole, elle est justement vraiment pointée
en question.
Aussi. Ouais. Et qu'est-ce que la parole et en quoi parfois il faut savoir aussi se protéger de la parole. Et mm-hmm. c'est vrai qu'on peut avoir tendance à penser la parole comme un bain très enveloppant. Mm-hmm. Et donc lui, il a pensé aussi la parole d'une autre manière. Mais donc c'est peut-être un peu tôt pour parler de Deligny là, mais c'est...
Non, c'est intéressant de le mettre en miroir de l'exposition, puisque là, en l'occurrence, il est question dans cette exposition d'enfants autistes mutiques. Donc, qui ne verbalisent pas, en tout cas, qui n'ont pas la parole. Mais c'est très intéressant parce que ça amène à... Deligny a beaucoup réfléchi sur la dimension autoritaire du langage et comment on peut réinventer d'autres langages. Et a fortiori, quand on vit 24 heures sur 24 avec des enfants mutiques, et comment on peut inventer d'autres manières de se parler. Ça, c'est passionnant. Enfin, c'est même un champ élargi... qui s'ouvre à nous quand on visite cette exposition.
Je voulais revenir au livre en disant que c'était aussi une manière pour nous de décrire un travail qui n'est pas forcément déjà écrit, mais de regarder différents gestes institutionnels mmh. aussi.
Tu disais que ce n'est pas forcément les moyens, ne pas nous donner les moyens de parler, mais peut-être l'espace aussi. Et donc on a vraiment conçu le livre aussi comme un espace pour que la parole puisse être accueillie. Et donc, l'idée de cette extension radiophonique du livre, c'est aussi proposer un espace différent. Donc voilà, la parole, elle est accueillie comme elle vient. Elle peut venir aussi avec ses hésitations, ses doutes ou ses moments de confusion. Mais c'est un espace qu'on partage malgré le matériel impressionnant qui est juste devant. Est-ce que on peut commencer par ton bricolage de circonstances, qui est du coup la manière dont, rétrospectivement, tu pourrais reparler de ton parcours et de la manière dont ça s'est imbriqué pour toi, de manière hasardeuse, avec les coïncidences, s'il y en a eu, enfin.
Bah, en tout cas, le terme de bricolage, je le prends bien volontiers, parce que si j'essaie de me retourner un petit peu, j'ai pas du tout le sentiment d'avoir un parcours en ligne droite, mais plutôt très, très sinueux, dans le sens où je n'ai jamais su ce que je voulais faire avant de le faire, et j'ai appris en le faisant. Donc, évidemment, les structures pédagogiques que j'ai traversées, elles m'ont sans doute appris plein de choses, mais j'étais pas du tout outillée plus que ça pour faire ce que j'ai été amenée à faire ensuite, c'est-à-dire des expositions et accompagner des artistes dans des moments de création. Donc tout ça, c'est passé par le hasard des rencontres. Enfin, j'ai quand même fait des études d'histoire de l'art, donc c'est pas totalement déconnecté. Il y avait quand même une appétence pour la culture, pour l'art, mais sans idée vraiment préconçue, et puis une totale ignorance du champ de l'art contemporain que j'ai découvert au cours de mes études. Donc j'ai quand même appris ça, et je dois dire, c'est ce qui m'a tenue en haleine. Bon, j'ai passé 4 ans à l'école du Louvre, qui est un contexte extrêmement d'apprentissage très classique, on va dire, et des pédagogies pas très créatives. Mais pour autant, j'ai découvert l'art contemporain avec bonheur, parce que voilà, tout d'un coup, c'était un champ très ouvert, très expérimental. Donc c'est un peu ça qui a ouvert des nouvelles portes pour moi. Et après, c'est vraiment le hasard des rencontres qui se sont multipliées, qui m'ont amené d'une expérience à l'autre à construire un chemin au fil du lot. Et pendant 7 ans, voilà, quand j'ai eu mon diplôme de l'école du Louvre, j'étais bien contente, mais je ne savais pas vraiment ce que j'allais faire avec ce joli diplôme, et personne ne m'attendait à la sortie. Et c'est vraiment en multipliant des projets, tous plus improbables les uns que les autres, j'ai commencé à faire des expositions, et sans vraiment même pouvoir nommer, me considérer comme commissaire, à écrire sans pouvoir d'écrire non plus comme critique d'art. Je l'ai jamais été vraiment, mais voilà, une espèce de bricolage de différentes pratiques dans le vivant, enfin in vivo, dans un maillage de rencontres de différents acteurs du monde de l'art. Et petit à petit, de fil en aiguille, je me suis rendu compte que, en fait, c'était ça que je faisais et qui me plaisait, c'était de faire des expositions. Pendant 7 ans, j'en ai fait plein. J'ai monté des lieux indépendants, dont Béton Salon, qui à l'époque était vraiment un lieu avec aucun moyen, tout petit espace, et bon, qui s'est institutionnalisé par la suite. Je n'étais plus vraiment à la manœuvre à ce moment-là, mais ça a beaucoup évolué. Et d'autres lieux que j'ai créés et qui étaient des projets éphémères et au plus près de très jeunes artistes. Voilà, et ça a duré 7 ans. Au bout de 7 ans, j'en ai eu un peu marre d'être extrêmement précaire. Et je me suis dit, pourquoi je ne ferais pas la même chose, mais en gagnant ma vie. Et donc, j'ai postulé à la direction d'un centre d'art. Et c'est comme ça que je suis devenue directrice d'un centre d'art en Lorraine, dans un petit village de 1000 habitants, en zone rurale, entre Metz et Nancy. Et donc, avec un sacré challenge d'amener des projets très pointus dans un contexte qui ne les attendait pas forcément.
Et dans lequel tu es restée 11 ans.
Je suis restée 11 ans.
Alors qu'on s'est dit que 11 ans, c'était aussi un parcours immense et que c'était une vraie temporalité pour bien connaître un endroit et y faire des choses et avoir le temps de s'y inscrire. Et que ça ne devait pas non plus être évident de pouvoir en partir. Et donc, on se posait cette question de comment on arrive dans un endroit qui est déjà constitué, qui existe déjà, et comment on y vit, et ensuite, comment on s'autorise à partir. Est-ce que c'est en y laissant une empreinte ou bien pas du tout? Enfin, comment est-ce que tu as négocié ça, toi, dans cette histoire-là?
C'est vrai que 11 ans, c'est quand même une sacrée tranche de vie, et j'ai adoré travailler dans ce lieu. C'est une ancienne synagogue, donc un lieu avec une histoire, une dimension mémorielle très forte. Le bâtiment a été détruit par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale, reconstruit après-guerre. C'est, comme je disais, une zone rurale, c'est assez âpre. Les hivers lorrains sont quand même assez longs, assez durs. Donc, c'est pas forcément la région à laquelle on pense quand on veut partir en vacances. Pour autant, ce contexte de travail était passionnant. Ben moi, j'ai effectivement, pendant 11 ans, développé une ligne artistique qui n'était pas celle des personnes qui m'ont précédée. qui n'est pas non plus celle de la personne qui m'a succédé. Et c'est le jeu. Et pour le coup, j'avais vraiment envie d'inviter des artistes, pas tous, mais qui ne fassent pas l'économie de ce contexte en termes à la fois formels, parce qu'il a une forme très particulière, ce bâtiment, même sonique. C'est vraiment un lieu qui a été construit pour que la parole circule, les chants. Il a une ancienne fonction voilà, religieuse et mémorielle. Et donc, certains artistes ont vraiment se sont saisis à différents endroits de la matière même de cet espace, du contexte socio-économique, géographique. Enfin, voilà. C'est aussi ça, moi, qui m'intéresse, c'est de travailler de manière contextuelle. Et que la matière des projets, c'est autant la physicalité d'un bâtiment que son histoire, que les gens qui habitent autour, la vie d'un espace et d'une ville. Donc comment tout ça vient nourrir le projet. Et c'était passionnant, parce que c'était difficile aussi, c'était complexe. Et cette complexité-là, elle m'intéressait. On n'était pas du tout dans un espace neutre, on était très loin du White Cube. Et puis avec peut-être un contexte sociologique, où c'était pas une évidence quand même d'aller voir des projets d'art contemporain qui se donnent pas toujours comme ça de manière immédiate, qui demandent un vrai travail de la part des visiteurs. Donc voilà, l'idée c'était de se mettre tous au travail. Après voilà, moi j'étais aussi très heureuse d'être là et très heureuse d'en partir aussi, parce que 11 ans à la tête d'une institution c'est beaucoup, et que c'est bien aussi qu'un lieu il se transforme. Et moi je me suis toujours considérée comme de passage, j'avais pas vocation à y rester toute ma vie. Et je suis très heureuse que le directeur qui a pris la suite, il construit une ligne artistique très différente, et ça c'est génial. J'aurais trouvé ça très ennuyeux que voilà, quelqu'un qui arrive après s'inscrivent voilà, dans la ligne précédente. Donc cette variété de propositions, elle est vertueuse. Donc je suis très heureuse d'être partie aussi et d'être restée 11 ans.
Anzo, Remati, à l'aube, ou beu à la tombade, ou beu au mi-temps de l'année, partrait par l'amour que vous savez. Prendrait sa bode, cauque souvenance, un trot de marandelle, une pierre, un dernier pot, la porte de sa maison, une sa niconie du pays, et traversa le demain tout inter, vers un brassa l'avenir. Zati, le brave Viaz, tantat sous le chiao migratou dans le monde des louons, que sériou venez des voula, per des soubres et des louclaux, per un semensa, leichi du tampao dans la commaille, plus lieu que de ses trapas la zale, d'une lotial ou de l'odouane.
on s'est parlé au téléphone et je crois que tu avais parlé de différentes formes de visibilité et de disparition liées avec ce métier de directrice. Oui.
C'est vrai que souvent, il y a une personnalisation assez forte dans nos métiers de la direction artistique qui prend beaucoup de place. Et moi, c'est vrai que je suis plutôt dans une posture où j'ai plus envie d'être créer une forme de retrait de cette fonction. Et d'ailleurs, oui, je me considère plus comme directrice d'une institution que commissaire, même si j'assure le commissaire des expositions. Mais ma fonction première, c'est plutôt une fonction de direction. Et la part artistique, malheureusement, elle n'est pas si importante que ça dans toutes les questions qu'on a à régler quand on dirige une institution, qui sont souvent des choses très matérielles et très concrètes. Mais après, il y a, oui, la question de la signature et de la fonction du commissaire. C'est vrai que cette fonction de commissaire, elle a pris beaucoup de place. C'est parfois un peu questionnant. On a des fois même plusieurs commissaires pour un artiste ou parfois on reçoit de la communication institutionnelle. Il n'y a même pas le nom des artistes sur le carton d'invitation. C'est toujours des choses un peu troublantes comme ça. Donc, comment on peut aussi remettre l'artiste sur le devant en termes communicationnels, institutionnels et s'oublier un peu ou faire, œuvre de modestie par rapport à sa fonction? Donc oui, la question de revisibiliser l'artiste au détriment du commissaire, qui est comme ça dans une posture aussi d'autorité tout le temps. Donc moi, même au départ, je ne voulais pas signer les communiqués de presse, simplement les écrire, pas forcément les signer. Bon, un jour, j'ai vu les trois quarts d'un de mes textes placardés dans une grande manifestation parisienne avec la signature de quelqu'un d'autre en bas. Et bon, il y avait une espèce de gros plagiat. Ça m'avait fait un peu bizarre. Donc, je m'étais dit, peut-être je vais quand même signer ça. Au moins, c'était un peu gênant malgré tout. Donc, j'ai commencé à remettre mon nom en me disant, au moins, les gens ils pourront mettre des guillemets. Et puis... sur le coup, ça m'avait beaucoup affectée. Avec le recul, je me dis, après tout, on s'en fiche, c'est pas très grave. Voilà, mais même encore aujourd'hui, souvent, je dis à mes collègues, on met pas... Ils veulent toujours mettre commissariat. Donc, moi, je dis, mais on n'est pas obligé de le mettre. Mon équipe insiste beaucoup pour que ça apparaisse. Ma chargée de communication aussi, donc je les écoute. Et d'ailleurs, pour Florian Fouché, j'ai eu cette conversation avec lui en disant, mais tu sais, ça me fait bizarre de signer le commissariat de cette exposition parce que c'est quand même d'abord ton projet. C'est lui qui a écrit le texte dans les documents de communication, a fortiori. Là, pour le coup, c'est lui qui l'a écrit. Et donc, je lui avais proposé de ne pas apparaître. Et là encore, c'est lui qui a insisté pour que j'apparaisse. Il m'a dit, c'est toi qui m'as invité, donc je veux qu'il y ait ton nom. Donc, c'est des discussions. Mais voilà, tout ça pour dire, c'est un peu la tambouille interne et la cuisine. Je pense que la question de signer ou ne pas signer, c'est bien de pouvoir se la poser et d'avoir la possibilité de disparaître au profit d'une entité qui est aussi justement un collectif. C'est toujours moi qui prends la parole le soir des vernissages pour présenter les expositions. Donc évidemment, c'est moi qui suis mise en avant. Mais il y a un collectif de travail et je fais en sorte quand même de nommer à chaque fois toute l'équipe. Alors ça fait un peu des listes très longues, mais je trouve que c'est important aussi de rendre palpable et visible l'importance. On n'imagine pas, en termes presque politiques, les gens qui viennent voir les expositions n'ont pas idée du nombre de personnes qui sont amenées à travailler sur des projets comme ça, et c'est très conséquent. Donc c'est évidemment les installateurs, toute l'équipe qui est dans les bureaux, tous les médiateurs, ça fait au final beaucoup de gens, et puis aussi les gens qui travaillent aux côtés des artistes et qui ne sont même pas physiquement présents dans les espaces. Tout ça, ça fait du monde. Et donc, moi je me dis, moi je suis un des maillons de la chaîne, un peu chef d'orchestre certes, mais quand même. Voilà, donc c'est un peu toutes ces questions-là qui étaient soulevées. Et c'est vrai que, pour reprendre la conversation du début, ça va aussi avec peut-être ma personnalité. Donc il y a un paradoxe en fait, parce que d'une part, on m'a appris à me taire et à disparaître, et en même temps, c'est important de pouvoir affirmer une parole et savoir se mettre de côté aussi ou revisibiliser certaines les travailleuses.
On s'est dit que c'était vraiment une fonction de mise en lumière des artistes, mais aussi une équipe avec laquelle tu travailles. Et c'est vrai que quand on est arrivé ici, dans le bâtiment, par exemple, on a été impressionnés par le nombre de personnes qui travaillaient là et qui portent chacune une manière différente d'accueillir. Mais du coup, on s'est senti, en tant que visiteuse, intervieweuse, on s'est senti assez guidée et portée tout en ayant le moment où on nous lâche aussi pour faire notre propre expérience. Et donc on a trouvé que ça c'était, enfin, on ne sait pas de quelle manière c'est parlé entre vous, mais on a trouvé qu'il y avait quelque chose qui était très réglé, en tout cas qui était très construit. Mmh. On voulait savoir un peu de manière collective comment ça se passait et comment vous arrivez à travailler la question de l'accueil notamment.
Ben là, je dois dire que j'ai vraiment une chance inouïe à cet endroit de l'accueil et de la médiation, parce que au CRAC, il y a une équipe de médiation qui est carrément extraordinaire. Donc, je ne peux que le survaloriser, l'encourager. Et oui, il y a une super équipe des publics. C'est très engagé. Et puis, aussi nourri par les projets. Bon, et sur cette expo Deligny, il y a aussi un engouement très, très fort de l'équipe pour la nature même du projet, puisque il interroge nos propres manières de travailler. Donc c'est aussi l'exposition en elle-même, en fait, qui est à la fois l'objet sur lequel on travaille, mais qui est aussi notre sujet. Donc une espèce de conjonction des deux qui fait que c'est très aligné là tout d'un coup. Et c'est aussi comme une boîte à outils pour nos propres métiers et des formes de questionnement sur ce qu'on fait là et ce qu'on bricole tous ensemble. Donc là, du coup, c'est presque la partie la plus facile pour moi. C'est pas toujours le cas. Je discute avec pas mal de collègues où cette question-là, elle est très difficile, parce que les structures administratives sont aussi très différentes, et souvent dans les musées aussi, c'est un sujet très complexe. Mais nous, on a la chance d'avoir des personnes, en fait, qui partagent des valeurs sur ces questions de la médiation. Donc il y a beaucoup d'harmonie en fait à cet endroit-là, et c'est une joie. Enfin moi, depuis que je suis arrivée, je me dis mais quelle chance de travailler dans un endroit avec une telle équipe. C'est extraordinaire. Et je sais que c'est loin d'être le cas partout. Donc j'ai pas eu à aller contre des habitudes où je me disais tiens là quand même on pourrait mieux faire. Bon, il y a d'autres difficultés à surmonter, mais pas à cet endroit-là, qui est un peu un endroit hyper important. Et c'est quelque chose qu'on nous renvoie en permanence. Enfin, le public nous fait des retours sur cette qualité d'accueil tout le temps, quoi. C'est quelque chose qui est un marqueur fort de notre mode d'accueil, qui est donc un accueil très humain, très horizontal, très bienveillants, elles savent hyper bien s'adapter en fonction des personnes, à l'écoute des besoins des uns et des autres. Certains qui veulent être hyper accompagnés, d'autres pas du tout. Et puis en capacité de répondre aux questions, de déjouer aussi tous les préjugés qu'il peut y avoir, parce que c'est pas toujours, des fois, toujours marrant, la médiation. Ils sont quand même face à des fois des publics qui n'ont pas du tout envie de se saisir des projets. Et même à cet endroit, elles sont géniales.
Et concrètement, par rapport à Deligny et aux allers-retours que vous avez pu faire avec le fonctionnement intra-institutionnel, comment tous ces allers-retours-là, ils ont pu se faire ? Parce que ça va au-delà du simple intérêt pour une pratique ou pour une histoire, qui est de l'ordre du soin, de l'accueil, de la quotidienneté. Mais ça, j'ai l'impression que ça passe ce niveau-là, qui est plus de l'ordre du coup de l'analyse. En équipe, qui suscite ça et comment est-ce qu'il y a un espace pour ça ? Comment est-ce que vous arrivez à faire ça ?
Sur cette exposition, la chance qu'on a eue, c'est que aussi les commissaires, le collectif de commissaires, il est venu très en amont et on a passé une journée entière pratiquement et l'ensemble de l'équipe était là. Donc, c'est un an avant le début de l'exposition, je ne sais plus vraiment, peut-être même plus. Et ce moment-là, finalement, c'est plutôt exceptionnel qu'on l'ait eu aussi long et avec toute l'équipe, parce que souvent les artistes viennent, mais tout le monde n'est pas là. Donc, et puis, ils n'ont pas beaucoup de temps, donc ils viennent voir l'espace. Ils me voient surtout moi, mais pas forcément toute l'équipe. Donc après, je fais beaucoup le relais. Et là, c'était vraiment une situation idéale, parce qu'il y a eu ce moment de transmission et très long avec les commissaires et tout le monde. On était vraiment tous autour de la table. Et ça, je me rends compte à quel point c'est important. Il faudrait pouvoir le faire tout le temps et bien l'anticiper et bien l'organiser, ce que je ne fais pas forcément. Et là, je prends bien la mesure aussi de l'importance de ce temps de rencontre en direct et qu'il ne soit pas médié par moi ou par la direction. Donc ça, ça a été extrêmement vertueux. Après, on a l'impression que tout est merveilleux dans le meilleur des mondes. Mais la réalité, elle n'est pas si simple, parce qu'évidemment, on est tous... tout le monde est débordé. On est tous pris dans notre quotidien, nos urgences, une charge de travail qui est importante pour tout le monde. Et donc, ces moments ou ces espaces dont tu parlais, nécessaires, où on peut mettre en perspective les choses, les discuter sur le fond, très honnêtement, ils manquent cruellement. Donc, on a des temps de réunion d'équipe réguliers, mais où on parle vraiment des choses très concrètes. Et malheureusement, on n'a pas forcément des temps de discussion sur le fond. Et ça, c'est peut-être un vrai gros travail pour ma part à réfléchir, mettre en œuvre, mais trouver ces espaces réguliers, en fait, de réflexion commune. Et ouais, non, ils sont pas du tout assez présents. Donc, ils sont présents de manière informelle et puis pas forcément tous ensemble. C'est voilà, les uns les autres sur des temps de discussion qu'on peut avoir ici ou là au fil du projet. Mais c'est pas organisé.
Parmi les choses qu'on avait abordées dans notre échange téléphonique, il y avait aussi la question des choses complexes, justement, des problèmes que Laurence Rassel peut rencontrer. Toi, tu disais que tu faisais face aussi aux mêmes problèmes et que tu avais des manières différentes de les résoudre. Et est-ce que tu as en tête un peu certains types de problèmes et tes manières de les résoudre ?
C'est large, hein, les problèmes, il y en a beaucoup, d'ordres différents. Bon, ce qui m'a intéressé dans l'approche de Laurence Rassel, c'est vraiment la dimension, la culture matérielle aussi, qui est la sienne. Elle une perspective un peu marxiste aussi, des lectures comme ça qui la nourrissent, avec cet aspect très concret en fait, et le rapport aussi à la matérialité des institutions, des outils. Donc ça, c'est ça me parle évidemment, parce que le rôle d'une direction, c'est aussi de régler des problèmes matériels. Alors nous, par exemple, enfin il y en a plein. Hein. Ça peut être des problèmes bâtimentaires, des problèmes d'ordinateur qui ne marchent pas, etc., etc. Nous, on a un problème majeur qui est que l'équipe, elle travaille, vous l'avez vu, dans un open space. Et donc, c'est des conditions de travail qui sont très mauvaises en termes matériels, parce que c'est usant, parce que tout le monde est dans le même espace, il y a une pollution sonore permanente, c'est aussi l'espace où tout le monde mange, c'est aussi une salle de réunion, donc il y a une espèce de multi-usage de ce bureau. C'est très difficile de travailler dans ces conditions-là. Et moi, j'ai la chance d'être à côté, dans mon bureau, toute seule, avec la jolie terrasse, tout va bien. Donc il y a une espèce aussi dichotomie comme ça, énorme. Alors, le télétravail a réglé plein de choses. Et donc, en fait, c'est ces questions-là qu'il faut embrasser. Là, on est en train de travailler à la mise en œuvre de nouveaux bureaux dans un autre espace où chacun pourra avoir son espace propre. Donc, c'est ça, en fait, les problèmes matériels, ça prend énormément de temps. Et donc, on ne peut pas faire l'économie de ça. C'est pour ça que je vous dis, le poste de direction, on est loin des questions artistiques. Et en même temps, le fait que les gens ils soient bien pour travailler, en même temps, c'est nous tous qui les faisons, les expositions. Donc, c'est indispensable. Donc, ça peut être des choses de cet ordre-là. Après, oui, c'est des problèmes organisationnels. Et Laurence Rassel en parle beaucoup aussi, de ces questions d'autorité, de la direction et comment on pense cette autorité. Nous, on travaille dans une structure très pyramidale. Le centre d'art, c'est un service d'une collectivité qui est la région Occitanie. Et donc, nous, on répond à des règles qui ne sont pas celles d'une association, mais qui sont celles d'une collectivité publique avec une structure, une chaîne de décision très, très pyramidale. Et ça, moi, je n'ai pas la main sur la transformation de cette organisation. Je dois la prendre comme elle est. Et à l'intérieur de cette organisation, comment on peut trouver des espaces de jeu. Et d'ailleurs, dans l'image du radeau de Deligny, bon, c'est une très belle image. Nous, on est plutôt, le crack, c'est plutôt le vaisseau amiral. On n'est pas du tout un radeau. Mais comment on peut, malgré tout, garder en tête cette métaphore, cette image du radeau, où Deligny dit, il faudrait retrouver la citation exacte, qui a ce... En fait, les différents morceaux de bois qui constituent le radeau sont noués et ça tient, mais il y a du jeu. Voilà. Et donc, moi, cet espace de jeu, c'est là où je me dis, voilà, à quel endroit on peut faire qu'il y ait du jeu.
Je me demandais si l'expo rentre dans une pensée plus institutionnelle au niveau de l'équipe et de la structure. Est-ce qu'il y a des espèces de polonisation entre les expos et l'équipe ou la pensée de direction?
Ben, c'est là où c'est pas si simple, parce que bon, dans ce livre, Laurence Rassel, ce qu'elle parvient à faire au sein de l'institution, à la repenser vraiment à l'aune de la psychothérapie institutionnelle, moi, je pense pas pouvoir être capable de le faire du tout. Enfin, peut-être pas de manière aussi radicale, mais pour autant, ça permet malgré tout de réfléchir au rapport de domination, aux structures hiérarchiques au sein même d'une équipe, hein, dans notre petite organisation. Donc c'est une douzaine de personnes, hein, si on met équipe bureau, équipe médiation. Et c'est important, je pense, de dire ce nom, parce que c'est une taille critique intéressante d'équipe où moi, je peux avoir un rapport direct avec toutes les personnes qui travaillent dans cette organisation. Dès lors que l'organisation, elle grossit, ça devient tout de suite plus compliqué. Et ça, c'est intéressant, du coup, de garder cette taille critique. Et donc, d'essayer, voilà, en tout cas à mon endroit, de repenser voilà, la modalité de lien avec les personnes avec qui je travaille. Oui, en étant dans une forme d'horizontalité. Pour autant, d'un point de vue administratif, c'est moi qui valide les congés des gens, les ordres de mission, c'est moi qui signe tous les papiers, etc. etc. Bon, ben ça, ça changera pas. Ce sera toujours moi qui jouerai ce rôle-là et qui aurai cette casquette administrative. Mais là où on peut créer le jeu, c'est justement dans les rapports humains, dans les modalités d'adresse les uns aux autres, dans la manière de se parler, de s'écouter, enfin, des choses très simples finalement.
The hand that
J'avais envie de faire quelque chose autour de Deligny, mais quoi, je savais pas. Et puis j'étais bien ignorante quand même sur beaucoup de choses autour de Deligny. Et puis je savais qu'il y avait eu toute cette tentative des Cévennes, pas très loin d'ici. Et j'avais contacté Sandra Alvarez de Toledo, qui est donc l'éditrice des œuvres complètes de Deligny, en me disant que c'était un peu la personne la mieux placée pour peut-être porter un projet comme ça. Et puis elle m'avait dit « je suis désolée, on se connaissait absolument pas ». J'étais sollicitée pour faire une exposition à peu près voilà, la même proposition l'année prochaine à Marseille. Donc, bon, bah, désolée, Madame Cosette, au revoir. Et j'étais très triste, mais je me suis dit, bah, j'irai voir l'exposition quand elle aura lieu. Et puis, elle n'a jamais eu lieu. Et puis, le Covid est arrivé. Et le Covid est reparti. Et l'exposition, je ne l'ai toujours pas vue arriver. Donc, je me suis dit, quand même. Et il se trouve que Florian Fouché, je le connais depuis un moment. Je l'avais rencontré quand il était en post-diplôme au Beaux-Arts de Paris. Et que j'avais continué à suivre le travail de loin en loin, que je savais qu'il avait tout ce projet qui s'appelait Manifeste Jean-Marie. Et donc, il était très nourri de la pratique de Deligny dans ses recherches les plus récentes. Et j'étais allée voir son exposition à Paris, une exposition collective qui s'appelait Le Corps fait grève à Béton Salon. Et c'est à ce moment-là que je l'ai contacté en lui disant « Florian, tu sais, j'avais fait cette démarche auprès de Sandra pour Deligny, puis bon, voilà ce qui s'est passé. » Il m'a dit « Ah, mais écoute, l'expo, elle n'a pas eu lieu, mais je vais organiser un rendez-vous, il faut absolument que vous rencontriez. » Et c'est grâce à Florian que la rencontre a eu lieu, parce qu'elle lui a fait aussi confiance sur le fait qu'on se rencontre. Et c'est à partir de là, de ce premier rendez-vous, que nous avons cheminé tous ensemble avec ces deux propositions d'exposition, parce que c'était important pour moi que de parler de Deligny, mais qu'il y ait une forme d'actualisation aussi. Et donc avec Florian, ça se posait là. Donc c'est comme ça que ça s'est fait. Il y a eu une triangulation, voilà, entre la pratique de Florian, le commissariat de Deligny et le CRAC.
Et donc, il y avait déjà une connexion entre Florian et Sandra.
Oui, c'est vraiment des compagnons de route de longue date. Effectivement, ils dialoguent beaucoup et depuis longtemps avec Anaïs Masson aussi, qui est une des éditrices aussi de l'Arachnéen et qui est par ailleurs artiste aussi. Donc voilà, il y a beaucoup de circulation entre tous. Il y a une dimension très collective aussi dans leurs échanges.
Et du coup, c'est aussi une exposition, celle de Deligny, qui est conçue de manière très horizontale, puisque c'est a priori pas des personnes qui sont commissaires d'exposition à l'origine, mais qui viennent plutôt du monde de l'édition ou du cinéma, ou même de la pratique de soins, puisque c'est plutôt... Enfin, cette équipe constitue presque des proches de Deligny ou de sa pratique. Comment est-ce que ça s'est fait? Est-ce qu'il y a eu des allers-retours sur la manière de concevoir l'espace de...
Ben, le collectif, déjà, moi, il était évident que je n'avais pas du tout la légitimité à assurer un commissariat de Deligny, alors que, en l'occurrence, les personnes que j'ai invitées ont une connaissance extrêmement approfondie et de longue date sur Deligny. Donc voilà, il y a effectivement plusieurs personnes. Bon, qui sont pas commissaires, ça, c'est toujours pareil, la question des rôles. En tout cas, c'est des gens extrêmement compétents pour faire des expositions, même si Anaïs Masson et Sandra Alvarez de Toledo sont éditrices, donc c'est quand même leur première fonction. Mais pour autant, ce sont des gens qui travaillent dans le champ de l'art à divers titres depuis très longtemps et qui voient beaucoup d'expositions. Donc, enfin, voilà, un savoir-faire très précis. Et ça, de toute façon, voilà, la question commissaire, éditeur, tout ça, ça ne m'intéresse pas du tout. Donc, je n'avais aucune hésitation là-dessus et toute confiance. Martin Molinagola, lui, il est chercheur et il fait sa thèse sur le cinéma de Deligny. Mais c'est pareil, c'est quelqu'un qui connaît énormément les images, le cinéma. Enfin, c'est une personne qui avait... une immense légitimité à faire ce qu'ils ont fait. Et quant à l'accrochage, ben oui, on a discuté, mais c'est pareil, je leur ai vraiment laissé faire ce qu'ils voulaient faire, comme ils voulaient le faire. Et comme il y a dans l'exposition cette lettre de Deligny à Jacquelin, dans laquelle il fait la différence entre, alors je ne sais plus exactement ce que c'est laisser faire est différent de permettre, et il fait une flèche, et c'est permettre, c'est donner les moyens. Et Sandra, elle revenait souvent sur cette formule pour le vernissage. J'ai dit, bon, voilà, Marie nous a donné les moyens. Et en fait, c'est ça, moi, mon rôle, c'est ça avant tout, c'est de donner les moyens aux gens de faire ce qu'ils ont envie de faire. Et c'est un peu ce qui s'est passé là.
On s'est demandé un peu aussi s'il y a eu des discussions autour de ce geste d'amener Deligny, et, enfin, pas que Deligny, mais ces pratiques-là dans l'espace d'art.
Alors oui, du coup, et pour revenir aussi sur la question précédente, c'est que la question du commissariat, etc., mais ça rejoint cette question. Sandra et Anaïs, en fait, dès le départ, elles en ont beaucoup parlé après, quand il y a eu les journalistes le soir du vernissage, même à moi, elles me le disaient. Bon, nous, on est quand même éditrice, Deligny, c'est un écrivain, et là, on fait une exposition. Donc, en fait, pour elles, dès le départ, il n'y avait aucun caractère d'évidence à faire cette exposition, à amener Deligny dans un centre d'art. Et pour elles, c'était voilà, une problématique majeure dans le fait même de répondre à cette invitation. Alors moi, à chaque fois, je déjouais ça en permanence, mais c'était ça reste, et elles en parlent, elles l'adressent de manière assez directe dans leur texte de présentation. Elles disent aussi, elles reprennent ce terme, elles disent c'est une tentative, c'est notre tentative à notre tour, mais ça ne coule pas de source de ramener Deligny dans une institution, alors que justement lui voulait ne pas être dans l'institution. En plus, voilà, c'est vrai que c'est un écrivain. Il ne parlait jamais d'art. Il disait l'art, c'est un horizon. Mais il considérait l'art comme un horizon, pas comme une fin en soi. Donc tout ça faisait que ça leur posait beaucoup questions de faire cette exposition à un centre d'art. Moi, j'avais toujours tendance, puis elle disait dans un musée. J'ai dit, on n'est pas un musée, c'est un centre d'art. Et un centre d'art, moi, je trouvais que c'était justement le lieu où peut-être on pouvait amener Deligny, parce que c'est comme ça que j'envisage le centre d'art. C'est quand même le lieu même de l'expérimentation et de la tentative. Et justement, pas un lieu clos et où les choses sont arrêtées une bonne fois pour toutes et monolithiques. Donc, je disais, bah, si, c'est bien l'endroit, c'est le centre d'art. Et tout à l'heure, je vous parlais du lieu d'accueil à Monoblé pour les enfants adultes mutiques, qui existe toujours. Et ce lieu s'appelle lieu d'accueil non traditionnel et expérimental. C'est la terminologie sur laquelle l'association s'est mise d'accord avec les services sociaux pour pouvoir continuer à exister sous une forme institutionnelle, malgré tout un petit peu. Et je trouve que ce terme, il est génial, parce que je me dis, mais en fait, ça vient très bien aussi pour ce qu'est un centre d'art, un lieu d'accueil non traditionnel, expérimental. Et je trouvais intéressant, finalement, que ce lieu se nomme comme ça, parce que la notion d'expérimentation qui est au cœur même de toutes les pratiques que Deligny a mis en jeu, ça me parle à l'endroit du travail des centres d'art.
C'est peut-être aussi l'exposition de Florian Fouché qui a permis, alors bon, c'est marrant parce qu'il y a une double porte du coup à l'entrée et donc on peut choisir celle par laquelle on peut entrer. Alors elles sont très différentes et à la fois le fait de les voir l'une après l'autre ou de circuler de l'une à l'autre peut aussi être une manière de passer la porte de Ligny quoi, quand on ne le connaît pas forcément ou quand on ne connaît pas cette pratique. Mais en tout cas, les deux se répondent très bien. Mm.
Bah, en tout cas, l'expo de la présence de l'expo de Florian, elle est fondamentale en regard de Ligny et inversement. C'est peut-être la seule fois où l'expo de Ligny, elle va être présentée ailleurs, en l'occurrence à Barcelone à la fin de l'année, sans celle de Florian. Et ça, c'est très dommage parce que il y a la manière dont elle se nourrit, et s'amplifie et se complexifie l'une l'autre me semble vraiment très importante. Et ça, c'est la seule fois où il y aura cette espèce d'amalgame comme ça entre ces deux propositions.
À l'entrée de l'expo, il y a cette citation d'une anecdote qui raconte la difficulté de rentrer par une porte.
Oui.
À part si tu as un objet à porter avec toi que tu suis en fait. Et je trouvais assez beau que ce soit à l'entrée de l'expo puisque ça peut aussi parler de la difficulté ou de l'accessibilité des institutions d'art, enfin que d'une certaine manière.
Oui, mais ça, oui, c'est merci beaucoup de le signaler parce que c'est le premier élément que les commissaires ont décidé de mettre avant même qu'on rentre dans l'exposition. Il y a ce texte qui est fondamental. Effectivement, voilà, il parle de la difficulté de Jean-Marie, qui est donc cet enfant autiste mutique qu'il a rencontré, qui a un peu aussi bouleversé, je pense, toute sa pratique. Et Jean-Marie ne peut pas passer les portes à moins qu'il mette un objet dans les mains. Et évidemment, il y a en plus l'écriture de Deligny quand il parle de ça, qui est absolument renversante et d'une poésie dingue. Mais ce texte-là, bien évidemment, il renvoie à nous en tant qu'institution et à la masse d'inhibition qu'il peut y avoir chez tout le monde pour passer la porte d'un lieu d'art. Évidemment, moi, je connais plein de personnes qui considèrent qu'ils ne peuvent pas aller au crack parce que ce n'est pas pour eux et donc qu'ils ne passent pas la porte. Donc, comment on met entre les mains des gens quelque chose pour leur permettre de passer la porte ? C'est magnifique parce que ça, c'est le sens même de notre action et le sens même de nos métiers, c'est de faire passer des portes.
Moi, ça me faisait penser aussi à... C'est pas évident d'amener cette exposition-là donc dans un centre d'art. On en parlait, même si c'est un lieu d'expérimentation. Qu'est-ce qu'il a fallu se mettre dans les mains, enfin en tout cas, ou se mettre en tête pour que ça puisse passer, pour que ça puisse entrer symboliquement, quoi. Qu'est-ce qui fait que ça n'a pas coincé, quoi.
C'est des choses, effectivement, qui sont sans doute d'ordre plus symbolique. Mais en fait, l'objet qu'on se met dans la main, c'est l'objet d'art. Enfin, c'est l'art. Pas forcément un objet d'art, mais l'art. Et peut-être que l'art, on peut le trouver ailleurs, avant de passer les portes du musée, du centre d'art. Il peut être aussi présent autrement dans nos vies, en dehors des institutions. Donc la question, c'est comment on peut avoir dans les mains, à un moment donné... Une forme artistique qui va changer notre vie et qui va nous permettre justement autre chose. Et c'est pas forcément cette autre chose, c'est pas forcément aller au musée, mais c'est aller à des endroits de nos vies où on n'irait pas autrement. Donc c'est une réponse un peu plus large que celle juste de passer la porte du centre d'art. C'est la question de l'art et comment on a accès à l'art.
Et avec quelle clé aussi, quoi ?
Oui.
Quelle clé est-ce qu'on va trouver individuellement ? Alors, est-ce qu'on reste sur cette histoire de clé ?
Ah, c'est pas
de
mal.
De porte à passer.
Ouais, moi, ça me plaît.
Et merci infiniment, en tout cas, pour ta disponibilité et ton
merci
accueil.
Merci à vous.
Merci. Cet épisode a été enregistré au CRAC de Sète pour la radio du en mai 2023.
Nous avons écouté Oh Superman de Laurie Anderson et le groupe de pop occitane Cocania avec leur titre Que se Auros, choisi par Marie Cosette. Le générique de cette émission est une composition de Valentin Gutzmann, extraite de son morceau Cocksinger de l'album Top Line.
À très bientôt pour un prochain épisode du Bruit qui court ne suffit pas.